Bonsoir, je me présente. Mon nom est Denise Desautels. Et au nom des membres du comité organisateur de la 38e rencontre québécoise internationale des écrivains, Nicole Brossard, Hélène Dorion, Naïm Catan, Pierre Neveu, et de sa directrice Louise Dupré, je vous remercie d'être venus, si nombreux, assister à cette lecture, au cours de laquelle vous entendrez des écrivains et des écrivaines du Québec, de Belgique, d'Acadie, de France, du Mexique, de Suisse et d'Italie. Je veux également remercier Joanne Germain, celle qui a donné une âme à ce lieu, et toute son équipe de nous accueillir généreusement ici, dans cette maison de la culture où on a développé au cours des ans une habitude des lectures publiques, ce qui en fait un lieu dont les murs sont habités par les imaginaires et les voix de tous ceux et de toutes celles qui, de diverses manières, et avec une extrême vigilance, tentent de penser et de repenser le monde, de l'orienter côté lumière. Ce qui n'est pas sans lien avec le thème « Le futur », qui est au cœur des rencontres de cette 38e rencontre, communication et réflexion que vous pourrez entendre bientôt sur Radio Spirale. Pour la première fois, à la lecture de la rencontre, un musicien nous accompagne. Il s'agit du compositeur et guitariste David Gaudreau, dont nous avons entendu en ouverture une pièce intitulée « Tonada ». Et nous avons parmi nous Marie-Christine Landry. Marie-Christine, pour être levée, l'artiste dont nous retrouvons l'œuvre sur le mur ici, sur notre affiche et sur le livret de la rencontre. Après avoir vécu de nombreuses années à Toronto, notre premier invité, l'auteur et cinéaste Antonio D'Alfonso, est revenu s'installer à Montréal, sa ville natale. En réponse à la question que je pose à tous les lecteurs-lectrices de son rapport à l'écriture, des liens qu'il voit entre vie et écriture, voici quelques lignes extraites d'un texte qu'il m'a communiqué et qui a pour titre « Prélude du devenir ». Le texte dissimule mal son auteur, en dépit des quelques essais qui nous font croire que tout a été écrit par les dieux. Je ne suis pas croyant. Pour le païen, tout sort de la terre, le ciel inclus. Derrière cette quête de dialogue entre ciel et terre, l'ombre d'une famille, la solitude que je connais trop bien me répugne. J'admire l'individu de la piazza. La communauté contradictoire, les mots qui me ressemblent le plus, m'éloignent paradoxalement de moi-même. Lire trop de ce qui m'habite m'ennuie. Pas l'écho, mais le voyage. Les phrases qui frappent contre celles qui surgissent de mes doigts m'amusent, m'éreintent, me feraient croire même au Dieu Tout-Puissant. C'est l'utilité des écrits que de soulever un miroir sans teint ou avec un teint imparfait. Voilà la correspondance étrangère. Antonio D'Alfonso lira ce soir des extraits d'un texte intitulé « Urbs Aurea », publié dans la Tribune juive en septembre 2009. Antonio D'Alfonso.
Bonsoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un enfant vient de mourir de soif. Les portails devront rester ouverts tous les jours, toutes les nuits. Nous n'aurons plus le temps de nous dissimuler, même dans le sommeil, puisque nos cauchemars seront les rêves de tout le monde. Et nous n'aurons plus rien à camoufler, puisque nous ne pourrons plus nous masquer. Qu'aurons-nous à cacher au fait si nous vivons dans les maisons sans clôture? L'or que les propriétaires terriens avaient accumulé dans les sous-sols barricadés d'acier et de béton, les boîtes de conserve. Les produits alimentaires ont cela de bon qu'ils pourrissent aussitôt cueillis. Chaque fruit et chaque légume comporte une date d'expiration. C'est précisément, pourtant, cette courte échéance qui constitue une promesse de bonheur. source d'extrême euphorie. En découpant le cercle en lanières rectangulaires, nos ancêtres ont créé des entités conceptuelles que nous appelons commencement et fin, entre lesquelles ils ont versé les secondes pour mesurer le temps que prendra le trajet entre le début pour arriver à la fin. Sur ces secondes, ils ont colli un prix, afin de calculer le tout. En nous indiquant le coût pour faire ceci, pour avoir cela. Ceux qui ont préconisé la noétique linéaire ont également inventé l'argent et la banque, c'est-à-dire la mort. Quand l'heure vaut tant et tant, le tic-tac équivaut une sacoche qui peut contenir tout métal amassé. Avec tout ce poids entassé dans nos poches, nous avons étiré un système d'emmagasinage extrêmement solide. Est-il possible de naître dans une ville où le temps n'aura que... Est-il possible de naître dans une ville où le temps n'aura pas de prix? Nous imaginons notre ville natale aux horloges sans aiguille, une ville généreuse, ouverte à toutes. Le contraire de l'épargne, c'est la dispersion. On veut l'éparpillant avec toutes les connotations négatives et toutes les mauvaises fréquentations que cela implique. Avons-nous le droit de souhaiter cela? Avant que nous réaménageons nos caisses de dépôt, il nous faudra transmuer complètement. Mais je le sais, la frontière revient aussitôt plus solide que jamais. Car il semble que nous avons un trop grand besoin de murs et de portes et de douaniers pour sauvegarder nos casques d'or. L'or, qui étymologiquement appartient à deux familles conceptuelles assez éloignées. La couleur de la rosée qui suit l'aube et précède le lever du soleil et la richesse tout crue. Le rare et l'avantageux. Oui, il faudra renverser l'histoire et confectionner non pas tant une alchimie de la fraude que l'alchimie du verbe amour, celui de l'altruisme plus que celui du caprice. Et nous voici devant le mur de la moralité, la cour du bien et du mal. Celui qui possède la clé des portes possède aussi les serrures. Le crocheteur crochu n'aura pas longue vie dans le marché où l'on tronque la fleur de courgette contre un effet zoom en reculons. Nous, les consommateurs de la nourriture gratuite, nous ne pourrons plus nous défendre contre l'enfant musicien du jongleur errant. Merci.
Merci. Jean-Pierre Valoton est suisse. Il est né à Genève et il vit depuis de nombreuses années à Lausanne. En réponse à la question des liens qu'il entrevoit entre vie et écriture, ces quelques lignes extraites d'un texte paru dans l'anthologie « Poésie de la langue française » publiée chez Segers à Paris en 2008. L'engagement d'un poète devrait être total. On ne l'est pas seulement le dimanche entre 16 et 17 heures, le temps de pondre un œuf. Il s'agit en fait d'une attitude face à l'existence, un état permanent de réceptivité. Être à l'écoute des bruissements de l'univers, aux aguets du moindre signe de vie ou de mort. Le reste est travail sur le texte, qui parfois se mue en poème. Je ne sais pas si pour le lecteur la poésie peut changer son rapport au monde. Quant au poète, elle est son rapport au monde. Elle n'a jamais été l'avenir de l'homme, mais son éternel présent. Au moment où il a répondu à mes questions, Jean-Pierre Valoton se proposait de lire plusieurs textes courts, des textes en prose par exemple. Sont-ils publiés ou inédits? Quel en est le titre? Je le laisse vous présenter lui-même ce qu'il a choisi. «
Bonsoir. Merci à Denise Desautels. Et pour répondre à sa question, il s'agit de textes inédits d'une série intitulée « Fraternitude », qui sont quelques portraits de poètes importants. Pour respecter le texte tel qu'il est écrit, le nom du poète concerné n'apparaît qu'à la fin. Vous l'aurez sans doute reconnu avant cela. Il maugrait, seul dans sa nuit. Un squelette de chat arpente ses artères, lui arrachant au passage des petits lambeaux de cervelle. Voudrait bien prendre le large, car sent encore en son cœur la mer rouler de lourdes vagues amères. Mais son corps impuissant reste rivé au port, et de ses poings martèle les accoudoirs du fauteuil branlant. Des bras ambrés glissent amoureux le long de son cou, et lui croit que des serpents qui dansent s'apprêtent à l'étrangler. Plus il s'enfonce dans l'ombre des grands bois, plus les arbres autour de lui se pressent, désireux de l'étouffer. Et ce parfum tenace de fleurs pourries qui gonfle ses narines. Puis une voix de femme ultime éclate dans l'obscur. « Mon fils, je t'avais prévenu, tu es maudit. » Il s'agissait bien sûr de Baudelaire. Vous ne le savez pas, mais c'est la dernière fois que vos genoux se blessent aux marches glacées de l'autel. Sans cette communion quotidienne et matinale, vous disiez ne pouvoir envisager d'affronter une nouvelle journée. Pour la dernière fois, et vous n'en savez rien, vous allez refaire le chemin de la croix en vous frappant la poitrine à chaque station. Mais qui saura quel fut vraiment votre calvaire? Une éternité de rire se mêle à vos sanglots. Un bruit de bottes déjà encercle le presbytère où va tout à l'heure se consumer votre ultime cigarette. Une auto vous y attendra dans laquelle, très calme, vous montrez. Les dés sinistres sont jetés. Un crapaud, l'œil inquiet, observe du bénitier les étoiles jaunes qui s'allume dans l'abside. Cette évocation était celle du jour où la police est venue chercher Max Jacob pour l'emmener à Drancy où il mourra. Ni noire ni blanche, la nuit s'enroule glaciale à son cou de pantin disloqué. La brume dépose un dernier baiser sur son front et la voix du souffleur anticipe l'avenir. Des lettres s'envolent des poches trouées du vent, phalènes amoureux de la seule et unique inaccessible flamme. La 13e heure a sonné au beffroi de la tour, et les cartes se sont tues au tarot du cœur. Fille ou feu, une ombre dans l'ombre a frôlé le silence. C'était la dernière nuit de Gérard de Nerval, rue de la Vieille Lanterne, avant son suicide. Et j'ai remarqué tout à l'heure que l'exposition dans le hall est consacrée au tarot, précisément. Hasard objectif, aurait dit André Breton. Je suis la chambre, la cité sous la mer, l'utérus et le cocon. Mes marées charrient des livres jusque sous les draps de l'homme allongé dans la barque, le cercueil, le berceau. Un vieillard, un enfant se relaient en ses yeux pour incarner son destin. L'immobilité active est son vertige. Une lampe de cuivre pour seule fenêtre, il arpente sa nuit opiacée en clignant des paupières. Tiré à l'aube de sa vie, une balle n'en finit pas, étoile filante, de tracer sa route jusqu'à lui. Quand elle atteindra son cœur, je volerai en éclats. Cette chambre qui parle était celle de Joé Bousquet à Carcassonne. Et pour terminer, bien sûr que vous êtes pour moi un adulte. Pourtant, avec vos cheveux bouclés, votre visage lisse, ces grands yeux clairs et rêveurs qui vous donnent un air si mélancolique, j'ai souvent l'impression que vous êtes encore un petit garçon, guère plus âgé que moi. Et puis, vous avez toujours des idées de jeu si incroyables. Jamais on ne vous prendra en flagrant délit de manque d'imagination. ce qu'elle peut m'intriguer, la grande boîte en bois noir d'où vous sortez toutes ces fioles et tous ces flacons aux formes les plus bizarres. Ce sont eux qui contiennent les produits dans lesquels vous baignez vos photographies. C'est si amusant de se laisser prendre par vous en photographie. Un jour, vous m'adossez contre un coin de mur friable du jardin, pieds nus et vêtus de haillons. Une autre fois, c'est en princesse chinoise accroupie dans un fauteuil, sous une ombrelle large comme un soleil. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les histoires que vous inventez pour mes sœurs et pour moi. L'autre après-midi, tout en ramant au fil de la rivière qui emportait notre barque sous les bras maigres des saules, vous nous avez même raconté comment je me suis mise à la poursuite d'un lapin blanc qui consultait avec effroi une montre tirée de son gilet. Vraiment, en feuilletant ce livre d'images qui vous est consacré, j'ai de la peine à croire qu'un jour, je serai cette vieille dame en robe à pois et jabot, sérieusement affublée d'un aussi ridicule chapeau. La petite fille évoquait ici un photographe et poète qui, grâce à Tim Burton, revient un petit peu sur le devant de la scène, Lewis Carroll. Je vous remercie.
Évelyne de la Chenelière est née à Montréal, une ville où elle a grandi et où elle vit toujours. Dans l'avant-propos de son deuxième recueil de pièces, « Désordre public », publié en 2006 chez Fides, la dramaturge parle de son rapport à l'écriture. En voici un trop court extrait. « C'est parce que je ne sais pas où mettre mon corps quand vous n'êtes pas là. Je le couche, je l'assois, je le fais tourner en rond, parfois je l'enfume, ou bien je pose mes mains dessus, mais rien n'y fait. Il n'est pas content d'être seul. Dès que nous sommes deux, je peux au moins placer mon corps en face d'un semblable, et ça le saisit. Quand j'arrache mon corps à notre désordre, quand je ne peux plus le mettre en rapport avec aucun autre, c'est là qu'il m'effraie le plus. Même quand je lui ferme les yeux, on ne sait jamais avec lui. Alors, pour l'occuper en votre absence, je le voûte au-dessus d'une feuille et j'écris ma fascination à votre endroit. Cette fascination perpétuellement renouvelée, je ne vous obligerai jamais à l'accueillir. Simplement, si je plante mon corps devant le vôtre, sans raison apparente, ayez la bonté de ne pas partir tout de suite. » Évelyne de la Chenelière a choisi de lire ce soir un texte en chantier dont le titre de travail est « Toutes les choses ».
Bonsoir. Il faut être un surhomme pour vivre normalement, pour s'unir et procréer, se nourrir soi-même et en nourrir d'autres. Il faut être un colosse mental pour ne pas sombrer, un pétard mouillé pour ne pas exploser. Il faut encore être d'une nature altérée, modifiée, je ne sais trop, être pourvu de branchies pour ne pas se noyer, ou de mille pattes pour ne pas perdre l'équilibre, ou d'un cheval entre les jambes pour ne pas se sentir seul. Et nous devons encore manger, ça n'en finit pas, tous les jours, il faut recommencer à manger, à acheter et à ingérer. Il semble que ce soit sans fin jusqu'à la mort, jusqu'au bout du rebours, nous mastiquons sans vraiment y croire. Nous parlons de nous, avec le nous royal, comme quand on dit d'un caniche qu'il est royal, pour l'arracher au ridicule qui colle à sa peau de caniche. Et nous envisageons le monde comme le fait le caniche royal, à quatre pattes et la langue pendue. Nous avons les yeux bien en face, comme tous les prédateurs, contrairement aux proies qui ont les yeux de chaque côté de la tête, pour surveiller tout en broutant ou en picorant la griffe qui viendrait s'abattre sur eux. Dans nos assiettes, nous avons les produits de la chasse et de la pêche, sans pourtant les avoir chassés ni pêchés, mais nous nous rappelons que nous aurions très bien pu le faire, puisque le caniche royal est d'abord un chien de chasse. Encore ce matin, il prit un plaisir manifeste à contempler son réfrigérateur rempli de provisions colorées. Sur les tablettes transparentes, toutes sortes de formes, des bouteilles, des petites boîtes de carton, des pots en verre, et puis les légumes couchés et les œufs rangés comme des écoliers. Il ne prit rien de tout cela, il se contenta de regarder. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas connu la faim, avait-il déjà seulement connu l'appétit? Pourtant le soulagement, chaque fois renouvelé lorsqu'il se tenait face au réfrigérateur ouvert devant lui, était immense. Oui, le caniche royal contemple son réfrigérateur, gros et blanc comme un ventre. Il regarde aussi son garde-manger, ses avoirs et parfois ses chiots, repus, si mignons dans leur panier. Parfois, le caniche royal rêve des rêves qui lui font pousser des petits couinements, des rêves qu'il racontera à sa femme le lendemain avec le café. Dans ses rêves, le caniche est de nouveau royal. Il chasse. Il court dans une vaste forêt. La terre est molle et les feuilles mortes sentent bon leur décomposition. La mousse rend la course du caniche feutrée et rebondie. Soudain, il entend au loin comme un roulement de tambour. Ce sont les sabots d'un sanglier en fuite. Les oiseaux lancent leurs cris. Sans doute se préviennent-ils entre eux de la présence du royal caniche, roi de la chasse. Partout, le lierre habille les arbres, dont les branches là-haut s'enlacent comme des doigts. Au sol, des fragments de lumière comme des pépites d'or. Soudain, le caniche pense à son réfrigérateur et se demande s'il n'aurait pas dû aller au supermarché, tout simplement, au lieu de s'enfoncer dans cette forêt sombre et guetter les marais pour ensuite rentrer bredouille et honteux. « Plus personne n'abat les canards, » pense le caniche. « Les canards naissent confits et sous vide dans les réfrigérateurs. » Pauvre caniche royal, il n'est pas allé travailler, il avait l'intention de repeindre les volets pour surprendre sa femme. Elle serait rentrée du bureau, elle aurait eu une belle surprise, et alors sans doute qu'ils auraient fait l'amour ce soir. Mais il n'a pas le courage de repeindre les volets. Il n'a pas le courage de faire l'amour à sa femme non plus. Le caniche royal est déprimé, il allume une cigarette. Ce n'est pas lourd sur l'estomac, la fumée voyage plus aisément dans le corps que la nourriture. Il ne finit jamais son assiette et se souvient que petit, il devait subir les remontrances de ses parents qui ne manquaient pas de rappeler à leur petit caniche que très loin, dans des pays de guerre et de sécheresse, on mourait de faim. La faim leur vole la vie. Et il racontait, encore une fois, les cortèges de corps émaciés titubant vers les vivres comme autant de silhouettes trop fines pour dessiner de l'ombre au sol. Le caniche n'a jamais compris en quoi ces récits devaient lui rendre un appétit perdu. Il regarde indifférent la cendre tombée sur le tapis turc. Il regarde ensuite le combiné du téléphone. Sur la petite console en acajou, il pense que le téléphone va sonner. Il joue à penser que le téléphone va sonner. Ce serait amusant si le téléphone sonnait, pense le caniche. Après quelques minutes durant lesquelles le téléphone ne sonne pas, le caniche éteint sa cigarette, se lève et va chercher une revue dans le tas de revues. Le caniche et sa femme sont abonnés à plusieurs revues. Des revues féminines, des revues de décoration intérieure, mais aussi des revues de sciences, de lettres, d'économie, de politique. Le caniche royal aime être renseigné, mais plus il se renseigne, plus il est confus. Il pense une chose et puis il pense exactement l'inverse. Il se fait une idée qui se défait aussitôt. Enfin, il se demande comment, pour être aussi renseigné, fait-il pour demeurer au final si indifférent ? Aucune revue n'est parvenue à lui rendre sa compassion perdue. Quand les revues sont lues et traînent depuis plusieurs semaines, les chiots ont le droit de dessiner des moustaches sur les visages et de découper les images. Le caniche royal n'aime pas tant feuilleter des revues qu'être, à ce moment précis, un caniche qui feuillette une revue tranquille assis dans le fauteuil. Le caniche est-il confortable? Il ne le sait pas. Il sait qu'il a certainement l'air confortable, ça lui suffit. Mais bientôt il se lève. Déjà lassé d'être un caniche qui feuillette une revue en ayant l'air confortable. Il regarde par la fenêtre, voit une pelouse, un banc de jardin à l'ombre. Pourquoi personne ne s'assoit jamais sur ce banc de jardin? Une bicyclette couchée comme un cheval mort. J'ai dit 1000 fois aux enfants de ranger leur bicyclette dans le garage. Un bain pour les oiseaux, quelle drôle d'idée, il est couvert de fientes. Et puis une autre fenêtre vis-à-vis, les voisins. Comment vivent-ils? Comment, c'est-à-dire de quelle manière et aussi par quelle prouesse. Il quitte la fenêtre, il tourne un peu en rond sur lui-même avant de s'asseoir de nouveau comme le font les caniches dans les feuilles. Il se relève et sans réfléchir, il va chercher un stylo, et un papier dans le tiroir de la console, et sur le papier il écrit « C'est un accident ». Ensuite, il va chercher son fusil de chasse dans le garage et revient s'asseoir sur le fauteuil qui donne l'air d'y être confortable. Le caniche regarde longtemps son fusil de chasse avec respect, avec humilité. Un sourire découvre ses dents. Que de manière, qu'est-ce que j'attends? Il attend une émotion qui ne vient pas, ne viendra-t-elle jamais? Il renifle le métal du fusil, mordit un peu le bois, puis s'arrête pour bâiller. Il quitte alors le fusil des yeux et croise le regard de sa femme dans le petit cadre posé sur le piano. Elle allaite leurs trois chiots en même temps. Elle ne les regarde pas, elle regarde ailleurs, confiante. Elle semble savoir de toute sa sagesse que le lait sait couler et que les chiots savent s'abreuver. Le caniche royal a soudain du mal à soutenir le regard de sa femme. Il songe aux chiots et se rappelle quand ils sont nés. Ils sont nés aveugles et affamés. Les chiots ont tout de suite aimé leurs parents. Ils les ont aimés de tout leur aveuglement, de toute leur invalidité, de toute leur incompétence. Mais alors que vaut cet amour de mes chiots, pense le caniche? Que vaut un amour que l'on doit à l'appétit renouvelable, à la foncière inaptitude et au désœuvrement d'origine? Et soudain, comme une chose de peu d'importance, comme une chose non préméditée, le caniche royal ouvre toute grande sa gueule, y glisse le fusil de chasse et tire. Un peu plus tard, sa femme rentrera à la maison chargée des emplettes destinées à remplir le ventre du réfrigérateur. Pour l'instant, elle réfléchit en conduisant. Il faut qu'elle se dépêche de mettre la viande congelée dans le congélateur avant qu'elle ne dégèle. Elle doit encore passer chez le nettoyeur avant d'aller à la garderie chercher les chiots. Elle sourit en pensant au livre d'images qu'elle leur offrira ce soir. Ils vont être contents. Et la voilà arrivée à la maison. Il faudra absolument repeindre les volets cette année. Quand elle ouvre la porte de la maison, elle échappe ses sacs en étouffant un cri. Elle dira aux chiots que c'était un accident. Toute sa vie, elle soutiendra que c'était un accident. Papa nettoyait son fusil de chasse.
Née au Québec, à Lac-Mégantic, Jacques Rancourt vit depuis de nombreuses années à Paris, où il travaille fort à créer des liens entre les poètes d'ici, de là-bas, et du monde. Pour nous parler de son rapport aux mots, un poème, cœur à mots. Cœur à cœur avec les mots et ce repli des choses qui attendaient, leur tour d'entrer dans l'ordre du réel, comme si celui-ci n'avait toujours été qu'un rêve ambigu, et surtout passager, si obstiné pourtant, que tôt ou tard, il faudrait bien passer aux choses, à choses, avec les mots, quitte à mourir muet une dernière fois. Ce texte, extrait de La Condition terrestre, paru aux éditions de la Bartavelle en 1995, est repris dans Veilleurs sans sommeil, choix de poèmes 1974-2008, qui vient tout juste de paraître, coédité par le Norrois et le Temps des cerises, et dont il nous lira lui-même trois poèmes. Jacques Rancourt.
Bonsoir. Le thème de ces rencontres étant le futur, je vais vous lire trois poèmes sur le présent. Mais un présent qui appelle un futur différent, je crois. Les carrés de l'hypoténuse. Si A et B sont au carré, si la neige s'additionne avec la pluie et que mon ombre m'accompagne dans la nuit, alors je me ressemble comme deux gouttes d'homme. La terre est plus légère que la sphère des géomètres. Si le temps n'est qu'une mesure et l'espace sans mesure, alors il nous reste le chose à chose, le présent dans sa dextérité, il nous reste les cadavres exquis. Je n'ai pas demandé à passer au prud'homme. Je ne recherche pas la douce quiétude des hommes. Si trois multiplient Dieu et qu'on expose les deux, ça ne donne qu'une formule impropre à la circulation. Ça ne fait qu'un battant pour fermer la fenêtre. Si les angles sont morts, comme le temps le permet, une pierre pour ton jardin, une pierre pour le mien, sachant que 5 carottes plus 3 navets font 8 légumes, 22 morts, 60 blessés font quel type de week-end? 3 famines et 2 guerres forment quelle formule, quelle figure humaine? Thinco ergo sum. Tant ce qui se dit ici, en passant ou sans penser, est souvent en retrait sur ce qui reste tu. Tu ne dois pas t'en étonner pourtant, tant la tendance locale est sensible de loin. Thinco ergo sum, car de la coupe aux lèvres, les boissons sont douteuses, si souvent délicieuses. Thinco or not to be. L'eau est passée par le lavoir, quelques oiseaux rentrent au dortoir, le ciel n'est plus parfois que sa propre réplique. Ambulare, escrivere. Demain, je déménage. Les parapluies sont enfin pleins et plus personne ne s'avise de les retourner. Périphérie. Il s'en passe tellement à la périphérie que l'on a du mal parfois à revenir à soi. On se retrouve sur le tapis avec la tête bicentenaire et quelques guerres serbo-croates. On dit qu'il vente parfois dans les cellules, que la vue est plongeante dans les atomes, mais qu'il fait un froid de glace. On dit, et on regarde au macroscope nos paysages néolithiques. Il y a la terre avec son eau et sa fourrure d'air qui fait une boule de watts dans le ciel en gésine. Il y a le Saint-Esprit qui ne souffle plus où il veut, et sa mère, qu'on n'a jamais connue. Ce matin même, il a vanté 3 fois, et personne ne s'est penché pour recueillir les molécules. Merci.
Notre prochaine invitée est l'écrivaine Maria Clelia Cardona, qui nous vient de Rome, une ville où elle est née. Vie, écriture, fiction, voici un poème qui a pour titre « Ars Poetica ». Je n'ai jamais pensé que ce que j'aime puisse m'appartenir. Ce que j'aime a la nature d'une ville enterrée. Effacer les chemins, écrouler les ponts et embraser les cartes. À me guider, les hurlements des oiseaux. Ce que j'aime alimente une faune fugitive, engraisse une herbe pas comestible. Ainsi, un frisson d'ombre témoigne, sur la terre, un passage d'ailes, qui ne nous concerne plus et que nous n'avons pas eu le temps de voir. Maria Clelia Cardona nous offre ce soir quelques autres textes, extraits comme Ars Poetica, d'un recueil qui a pour titre en français « D'un millénaire à l'autre », dans une traduction qu'elle a faite elle-même avec l'aide de notre ami Antonio D'Alfonso, qui viendra lire en français.
Bonsoir. La magnolia. Come la magnolia che al tramonto s'annera e appare fra i suoi rami una magnolia di luce. Ed è, lo sappiamo, un inganno e un potere della vista, un nostro reame di confine, che la mancanza prenda forma se le cose s'abbuiano, se ciò che amiamo si fa scansione, vuoto.
Mongolia. Comme un Mongolia qui, au coucher du soleil, se noircit, et entre les blanches apparaît l'autre Mongolia de lumière. Nous savons, c'est une ruse et un pouvoir de l'horizon. Notre royaume de frontières, dont le manque prend forme, si les choses s'obscurissent, si ce que nous aimons devient scansion et vide.
La scucitura. Non amo il rumore degli strappi. Meglio per me la silenziosa scucitura, la forbicina che taglia un punto dopo l'altro. Punge talvolta, ma il suono è quello dei secondi, il dolore quello dei secoli. Forse dobbiamo prenderci come siamo, bene o male imprendibili, né bene né male. Come l'amore, ognuno di noi entra in case sconosciute, silenzioso, senza lasciare traccia, come una foglia, come un killer.
Découdre. Je n'aime pas la rumeur des déchirures. Mieux vaut, pour moi, découdre en silence. Petit ciseau qui coupe point après l'autre, piqûre parfois, mais son même de la seconde, douleur même des siècles. Peut-être nous devons nous prendre, tant bien que mal, pour des imprenables, ni bien ni mal. Comme l'amour, chacun entre dans une maison inconnue, silencieux, sans laisser de traces, comme une feuille, comme un tueur.
Il giardino. Non scordare i giochi della luce estiva fra i rami del giardino inaccessibile. Quando, lungo il recinto, guardavamo dai siliati coi pomi mai colti, tanta scienza di vita rimasta sul ramo. E nel fogliame l'oro era gioia transeunte, e a quella, solo a quella, apparteniamo.
Le jardin. N'oublie pas le jeu de la lumière de l'été entre les branches inaccessibles. Lorsque, près de l'enceinte, nous regardions comme des exilés des pommes qu'on n'a pas cueillies, tant de science de vie restée sur une branche. Dans le feuillage, l'or était une joie fugace, et c'est à elle seule que nous appartenons.
Naturalis historia. Essere quel niente di puro suono che è il nome stampato su un libro. Qualcosa ci promette, del suo fosforo arde, ma riguarda la storia delle amebe, degli astri. Forse anche nelle pietre viviamo, come steli di felce affinati in graffito. Chi ricorda la storia della mosca, dalla passione spinta in una pozza d'ambra, o la fatica millenaria del fiorire per chi è sabbia come la rosa del deserto. Eppure, iscritto in noi, un destino di torbe, un tempo petali e foglie dissipati sull'acqua, nella luce. Ora, l'arrovellarsi sotterraneo, il disfarsi nell'attesa e nel futuro remoto la vampata esaustiva. E poi pensiamo che milioni di secoli non abbiano scampo che non sia la traccia d'inchiostro, il rigagnolo nero che da noi esce e svaria.
Ho dimenticato una parte. Être ce rien de son pur, qui est le nom imprimé sur un livre. Quelque chose de promis, de son phosphore qui brûle, mais cela regarde l'histoire des amibes, des astres. Peut-être aussi nous vivons dans les pierres, comme des tiges de fougères aiguisées en graffitis, qui regardent l'histoire des mouches poussées par la passion dans une mare ambrée, ou la fatigue millénaire de la floraison pour ce qui est sable comme la rose du désert. Est pourtant inscrit en nous, il y a un avenir de tourbe, à la fois pétales et feuilles dissipées sur l'eau de la lumière. À présent, le creusement souterrain, la foudre de l'attente, et dans le futur lointain, la flamme exhaustive.
Pour finir, da un millennio all'altro, que je lirai seulement en italien. A distanza, qualcuno dirà che si è chiusa un'era. Gli storici cambieranno capitolo, lasciando una pagina bianca, e il mondo avrà incerte postille, come al risveglio da una notte di temporale. Per noi cambiare millennio sarà un giorno come un altro, o un marchio di fuoco ci segnerà come il gregge del 2000. Non ti sento venire, 2000, se non per una tarda tristezza, lo sfinirsi del secolo, un polverio di ragioni perdute. Qualcuno rinuncerà, spaventato dal salto, morirà il giorno prima. Qualcuno raccoglierà la messe del foglio bianco. Grazie.
Thank you.
Née à Bruxelles, l'œuvre avait pour titre R. Merci David. Née à Bruxelles, capitale de la future Fédération européenne, lieu où il vit actuellement et où il vit, s'empresse-t-il d'ajouter, sa passion du langage éprouvée dans l'écriture de la littérature comme de la philosophie. En réponse à ma question sur l'écriture, Éric Clemens m'envoie quelques riches extraits de La fiction et la paraître, publiés à Paris aux éditions Albin Michel en 1993. N'en voici malheureusement qu'un court passage. L'expérience de la fiction apparaît dans le heurt du dire, de tout dire qu'elle cherche, et de l'impossible à dire, du trou du dire qu'elle marque. De la destruction à la déception, elle fait l'épreuve de ce qui ne peut être dit, figuré, raconté, de l'innommable qui ne peut donc être qu'écrit, au sens large, de façon multiple, indirecte, opposée, ratée, révélant le non-rapport et le non-savoir radicaux au centre vide de la création, au creux de son creuset, et provoquant dans le heurt de cette division le lâcher d'une énergie, d'un excès, où surgissent le rythme, l'écriture et la création. Éric Clemens a choisi de lire ce soir « Soulèvement », titre d'extrait tiré de l'Anna, fiction publiée aux éditions Le Cartanier à Montréal en 2004. Éric.
Donc, il s'agit dans la dernière partie de ce livre, de ce roman éclaté. Il s'agit d'un soulèvement au futur, d'une sorte de mai 68 au futur contre les images. Alors j'essaierai de donner une impression sur cet éclatement à la fois du roman et de la colère des gens que nous sommes. Traînée d'hiver sans neige fin avril, mégapole, nuit. Éclats, grelots, stridence, luisance, à travers la ville, les sons brusquent les corps. Les chiens sitôt excités, les audiovoluviseurs hurlent dans chaque bloc. Résonance univoque, pénétration infrasensible, réveil, réel débranché des sommeils, confusion des levées virtuelles, unisson, puis silence assoupi après la psalmodieuse. La ville survit parmi les parodies, régie par claviers dictaphoniques mentaux, écran enveloppant biosenseur. Un jour sur deux, je continue la description de cette ville avant sa révolte, un jour sur deux est voué au jeu spectaculaire, interactif et synthétique, un jour sur deux au jeu spectaculaire du jeu spectaculaire précédent. Rediffusion et diffusion sans frontières d'images-objets à monofonction par surconsommation jetable sur l'ancien modèle du mouchoir en papier, qui économise les mots et les soucis de soi. Réduite à rien, la langue réduit l'angoisse à rien, ou presque. Au gré des irruptions publicitaires, les masculins font reddition aux toilettes sans pouvoir rien sortir, ou à peine. Prostrées, prostatiques, les féminines sont au mini-lange. Les moins exténuées des photocopistes compile à qui mieux mieux. Il reste quelques hystériques polymorphes, pas de quoi fouetter un chat, assez pour tirer le diable par la queue, dont je suis, moi, terré, enterré, dans le leurre perdu de l'ANA. Le jeu télévoluvisé le plus populaire, diffusion sous interdiction ennuyée, par micro-disquette diaphane écologique, s'intitule « Tuer le temps ». Crime transsexuel sensivisionné en relief olfactif. Puis la révolte. Quelques-uns se lèvent, lisent à haute voix forte, d'orgue, à tue-tête, de stentor, en cachette, à parté et catimini, à la cantonade, qu'à un cas, grosso modo, avec avidité, jusqu'au fond, dans le jeu, constamment, couramment, entre les lignes d'un autre temps. Grève et rêve et révolte, enragez-vous. Ici on pense l'aboutissement de toute pensée, c'est le pavé. Ici on anarchie spontanément. Vivre au présent, jouissez sans entrave, ici et maintenant. Le but de la société est le bonheur commun. Un moment encore, citoyen, il faut laisser mûrir le crime et je l'attends. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. J'emmerde la société, mais elle me le rend bien. Déboutonnez votre cerveau aussi souvent que votre braguette. Viva ! D'autres accourent, croient à une sorte d'arrêt, de suspens qu'ils veulent voir cesser pour inutilité. Les discussions éclatent avec les premiers, tendus, irraisonnés. Ceux que l'arrêt révulse tentent de forcer ceux qui l'attirent, échauffourés, brouhahs. Certains bloquent l'intérieur, certains se replient, s'assemblent à l'extérieur. Je suis malgré moi avec eux. Nous rions d'une joie ressurgie des temps iconoclastes, charivari. Puis dans cette révolte, évidemment, éclatent les contradictions, dont celle entre les iconoclastes et les iconodoules. Le dernier soubresaut porte l'emblème du dernier dieu. Les doules et les clastes relancent la querelle des images, se concentrent sur un champ de bouillie, écrans, puces et claviers pilés, feuillets déchirés et plumes cassées. Iconophile, iconophobe, iconodoule, iconoclaste, vous croyez aux idoles, vous n'inventez pas d'images. Vous les adorez, vénérer n'est pas adorer. Vous profanez la vérité. Briser l'illusion n'est pas profaner. Vous êtes dupe de la présence. Vous l'êtes de l'absence. Fascination, manipulation, soumission, mémorisation, transition, information. Vous désirez des mirages. Vous ne désirez plus. Vous vous imaginez voir. Vous n'imaginez plus l'évocation. Lisez les mots de l'écriture. Voyez les couleurs des peintures. Les luminances n'existent pas en soi. Les chrominances existent pour tous. Vous ne progressez que dans l'adoration du rêve ancien. Vous régressez dans l'oubli des figures nouvelles. Vous vivez dans l'usé, rassurant. Vous ne vivez pas dans l'inquiétant inusité. Vous vous simplifiez tout aplati en surface. Vous ne désignez pas les autres dimensions aveugles au volume. Vous vous excitez. Vous n'intériorisez rien. Vous vous faites tout ressembler. Vous ne savez pas assimiler. Vous cédez à vos transports. Vous résistez à vos corps. Vous croyez au spectacle, vous croyez à l'invisible. Vous ne croyez pas au visible, vous ne participez pas aux formes. Coïnographes terrés, concepteurs laborieux de la croyance, idiophones errants, abstracteurs paresseux de la jouissance. Enfin, c'est la parole qui triomphe. Se délassent les mémoires, se délient les bouches, le soupçon gagne l'ignorance des langues, prends le temps. Je dis que nous n'entendons pas que nous entendons. Je parle d'écouter ce qui jamais n'a été entendu, même après qu'il eût été proféré, même après la première entente, la première écoute. J'harangue pour quitter l'étirement, l'éloignement des mots aimants, des monuments, des mensonges, insus, pas sûrs, ni vus ni connus, évidence. La phrase de l'immonde dit que les mots ne sont pas les choses, que les choses sont ce qui existe, que les mots donc n'existent pas. Dès lors, sa puissance vient de ce qu'elle travestit le jeu sur les mots pour ne plus exister en tant que tel et se laisser traverser par les choses qui n'existent pas comme eux. Mais son impuissance vient de ce que les négations des mots ne peuvent se dire que par des mots. Plus encore que les choses elles-mêmes ne peuvent être dites exister que par les mots. Ou alors, pour échapper à cette contradiction, mais comment le savoir sans l'avoir dit d'abord et être déjà entré dans leur engrenage, il faut purement et simplement ignorer les mots. Mais les ignorer les laisse en disposition, tels quels, à discrétion, et ne peut dénoncer leur inexistence. Donc, les choses seules ne peuvent rendre les mots inexistants. Il y faut des mots. Bref, les mots se font rocaille pour la racaille, mots qui jouent des mots et rappellent, voire appellent, l'existence des choses. Ainsi, marquent d'une façon ou d'une autre la coexistence des mots et des choses, ce qui indique que même si l'on dit que les mots n'existent pas, ils insistent. Ou ils existent de manière diverse, car s'ils n'avaient pas du tout d'existence, comment les rencontrer pour les contrer ? Et il en ressort que les choses ne sont pas les seules à exister, ou que les mots sont des choses autres, sans négliger que les mots n'insistent et ne persistent et n'existent autres que lorsque les corps disent les mots. Inversement, que les corps à mots, autres que les corps sans mots, n'existent en tant que tels, c'est-à-dire corps à mots, que grâce aux mots. Or, comme les corps à mots existent aussi grâce aux choses, il en résulte que les choses des corps à mots existent en tant que tels, avec l'apport ou dans les transports des mots. Mais n'est-ce pas dire seulement que les mots font exister les mots liés aux choses des corps à mots ? Du coup, seulement que les mots font exister les mots, ce qui ne paraît pas grand-chose, mais qui existe néanmoins. Sauf que les mots des corps qui existent grâce, entre autres, aux choses qui existent des corps à mots, ces mots ne font pas exister que les mots et coexister que les choses, ils peuvent dire aussi et disent des choses qui n'existent pas et les font exister en tant que mots des corps à mots parmi les choses, ce qui change certaines des choses qui existent sans mots en choses qui existent parmi les mots, des choses qui n'existent pas, ce qui complique tout.
Nathalie Filion est toujours parisienne, de naissance et de vie. Elle est toujours une grande voyageuse, à la fois comédienne et dramaturge. Elle écrit. Interroger les différentes fonctions de la parole, telle est mon obsession quand j'écris pour le théâtre. Faire naître autant une parole qui dit qu'une parole qui échappe, trahit, dévoile. Celle qui s'échange dans la complexité de la relation. Une parole de l'instant, non préméditée. J'écris le théâtre qui m'a manqué et qui me manque. Je construis avec et sur ces manques. J'écris quelque chose qui a à voir avec la musique, parfois en plusieurs langues, parce qu'elles vivent en moi et ont leur mot à dire. J'écris du théâtre dialogué parce que j'aime que les gens se parlent, même s'ils ne s'entendent pas, même s'ils ne se répondent pas. L'écriture est de toute façon un terrible malentendu. Mais sait-on jamais après tout. Nathalie Filion lira un extrait de « Pitié pour les lapins », une courte pièce, elle-même extraite d'une trilogie qui a pour titre « Froide, guerre froide ». Nathalie.
La petite trilogie dont est extraite cette pièce s'appelle « Froide, guerre froide », petit triptyque de poche contre l'amnésie. « Pitié pour les lapins », ma plus courte pièce, elle fait 12 minutes, je vais vous en lire les 5 premières minutes. Voilà. « Pitié pour les lapins », elle est dédiée à Alyosha, Vladimir et Zinaïda. Une épigramme. « Les événements sont des songes qui se souviennent de nous dans l'instant où nous les connaissons. » Joé Bousquet. Rôle et personnage dans le désordre de l'apparition. Mauvais rôle 1, un homme qui peut avoir l'apparence d'un russe, on l'appelle Piotr. Mauvais rôle 2, une femme qui interprète, on l'appelle Julia, l'interprète. Mauvais rôle 3, un homme qui joue à être le consul de France à Berlin en 1993, on l'appelle Monsieur le Consul ou Pierre. Un lapin. Accessoire, de quoi construire un mur, 3 passeports. Berlin, 1993, le lendemain de la mort de Pierre Bérégovoy. Cœur des mauvais rôles. Mesdames, Messieurs, meine Damen und Herren, ici ou ailleurs, bauen oder nicht bauen, dragiez rit, il y a un cas de conscience, construire ou ne pas construire, that is the point, ladies and gentlemen, dragiez tavarisch, stroit il n'y stroit, to build or not to build, ici ou ailleurs, das ist die Frage. Le lapin, passeport, passeport, quick, quick, le lapin distribue les passeports des mauvais rôles. Piotr. Qu'est-ce qu'il y a comme rôle dans cette pièce, Pierre? Que des mauvais rôles. Julia, qu'est-ce qu'on fait du quatrième mur? Le lapin. Once upon a time in Germany, 1993, I'm in a hurry. Il sort. Julia, à toi de jouer, Piotr. Piotr construit un mur en chantant en russe. Pierre lit un journal français. Julia chante avec un accent allemand. Près de la caserne, près de la grosse porte, il y a une lanterne et elle y est toujours. Est-ce qu'on se reverra là-bas? Près de la caserne, est-ce qu'on se verra, Piotr? Когда я был мальчишкой, носили брюки клюш, соломенную шляпу, в кармане финский нож. Эх, Pierre. Chaque jour, il est porte de Brandebourg, Julia. Ich sehe, I see, я вижу. Pierre, avec ses briques et sa truelle, Julia. Il y a vu jour, I see each there, Pierre. Chaque jour, on lui confisque ses instruments, Julia. Je vois, I see, et puis quoi, Pierre. On lui dit de rentrer chez lui, Julia. Où? Cœur des mauvais rôles. Il était un mur en Germanie, il était un homme, porte de Brandebourg. Il est là tous les jours, once upon a time, en Germanie. Il était un mur dans ce pays, il était un homme, Piotr, au pied du mur, qu'il est seul à voir. Piotr détruit le mur. Le lapin passe, le lapin. Bleu, blanc, rouge, rien ne bouge. Rouge, bleu, blanc, tout fout le camp. Qu'est-ce qu'on fait du quatrième mur? Le lapin plante le drapeau français, pose un calendrier indiquant 3 mai 1993, consulat de France à Berlin, et sort. Piotr serre Pierre dans ses bras et l'embrasse. Pierre se dégage. Pierre. D'accord, d'accord, allons-y. Voilà, très bien. Assis, passeport, merci, qu'il pose son seau, Piotr. D'accord, alors écoutez, Piotr, le mur est tombé, boum, crac, d'un bloc, c'est comme ça. Posez la brique là, il faut regarder la réalité en face, Piotr. Le mur est tombé, le mur est tombé. Traduisez, Julia, boum, crac, face the reality, un choc, c'est la vie. Ich bin ein Berliner, kaput over, ne l'épargnez pas, Julia. Traduisez, j'ai 10 minutes, je suis pressée, ne nous épargnons pas, ne nous épargnons plus. Traduisez, Julia. Julia, non. Pierre, bon. Visa, nom, prénom, lieu de naissance. Ah, c'est où ça? La vache, ça s'écrit comment ça en français, Piotr? Visa, мне нужно. Ты просто смотри, смотри на меня. Я хочу только, чтобы ты на меня смотрел. Pierre, pourquoi il reprend son passeport? Mais non, donnez, qu'est-ce qu'il a me regarder comme ça? Vite, il va encore m'embrasser. Oh non, non, relevez-vous. Il l'aura, son visa. Le mur est tombé, traduisez, Julia. Attention, la truelle, mes chaussures. Oh non, 4 ans qu'il est tombé, ça n'en finit pas. Qu'il se relève, nom de Dieu. Traduisez, vite, vite, ce soir, moi, Paris. Relevez-vous, traduisez, Julia. Non, c'est trop blessant, je ne traduis pas. Piotr, не бойся, друг мой. Я не визу хочу. Спасибо. Юлия, скажи ему. Что мне нужно только одно, чтобы он на меня смотрел, пока я строю стену. У меня только одна жизнь, как гамти-дамти, так что время есть, Julia. Il dit qu'il n'a qu'une vie, comme Humpty-Dumpty. Il dit merci, pas de visa. Il dit j'ai le temps. Il veut que vous le regardiez construire le mur. Passe le lapin, Humpty-Dumpty sat on a wall. Pierre, stop, je vous arrête. Quel mur, Piotr? У него глаза как у кролика. Pierre, что, qu'est-ce qu'il a dit, Julia? Il dit que vous avez des yeux comme un lapin. Pardon, attendez, dis-tu de me lâcher la main? Il a bu ou quoi? Qu'est-ce qu'il me veut? Je suis un homme, carte de séjour, visa, ma chemise, je donne tout. Est-ce qu'il sait où il est? Est-ce qu'il sait qui je suis? Piotr, da. Pierre, ne traduisez pas. Piotr, da, я понял. Я не визу хочу. Pierre, ne traduisez pas. Excusez-moi, j'ai mal au cœur, stress. Ne traduisez pas. Piotr, visa мне не нужно. У меня грандиозный проект есть. Julia, il a un grand projet. Pierre, ne traduisez pas. Piotr, я простой артист. Pierre, ne traduisez pas. Julia, c'est un simple artiste, monsieur le consul. Pierre, oh non, Julia, si. Piotr, da. Pierre, merde. Julia, un grand artiste dans son pays. Pierre, pourquoi ça tombe sur moi? Un artiste, bon. On ne saura jamais s'il est fou ou pas, ok? Face the reality, traduisez. Non, ne traduisez pas. Faites ce que vous voulez, je suis français. Un artiste, je suis coincé. C'est quoi son projet? Je pensais visa. Attendez, dis-lui que bien que lui, artiste, et moi, bien que moi, français, il n'est pas en mon pouvoir d'eux. Julia, deux. Pierre, deux. Julia, c'est tout? Pierre, c'est tout. Piotr, da, понимаю. Julia, нет. Pierre, hein? Quoi, нет? Julia, da, слушай. Он говорит, что, понимаешь, как сказать, очень сложно перевести. Он говорит, что, так как ты большой артист, невозможно узнать заранее, сумасшедший ты или нет. И он хочет, чтобы я тебе перевела, почему ты свалился на его голову, так как он француз. Pierre, pourquoi il rit? Qu'est-ce que c'est que cette longue phrase dégoulinante? Arrêtez de vous marrer. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Julia, chaque jour il est porte de Brandebourg. Pierre, je sais, je n'aurais jamais dû accepter ce poste. Julia, avec ses briques et sa truelle. Pierre, j'ai vu, rien que des emmerdes. Julia, chaque jour, on lui dit rentre chez toi, pauvre malheureux, le mur est tombé, pauvre fou, rentre chez toi et oublie tout. Pierre, dites-lui de ma part que la grande histoire, je suis bien placée pour le savoir, dites-lui bien placée pour le savoir que la grande histoire se moque toujours de la petite. Traduisez. Julia, non. Pierre, quoi non? Julia, je ne traduis pas les pensifs. Pierre, pensif? Julia, je n'ai qu'une vie. C'est ce qu'il dit. Je traduis. Pierre, ah, Julia, c'est un artiste, un être humain. Pierre, ah, être humain, une vie. Quelle heure est-il?
Alors, vertigineusement, la mémoire lui rend plusieurs images de son père. Il se souvient de lui du temps qu'il était toujours tiré à 4 épingles, le pan de son sarrau blanc soulevé par ses pas pressés. Il se le rappelle en chemise en carreau, les bottes de construction perpétuellement délacées, quand, éreinté, il poussait la porte de leur appartement exigu du quartier Côte-des-Neiges. Il le voit barbu, les cheveux longs, exactement comme il apparaît sur les photos, alors qu'il terminait ses études universitaires et qu'il ne vivait que pour les meetings et les rallyes. Il se le rappelle enfin tel qu'il l'a vu la dernière fois qu'il lui a rendu visite, affublé d'un chapeau de cuir ondulé et d'un lasso fixé à la taille, l'œil aiguisé, taciturne comme les paysans qui l'entouraient à la ferme, qu'il gérait d'une poigne de fer. Il repense à tous ces personnages qu'a incarné son père, sans arriver à les relier. Ces mots écrits par notre prochain invité, Mauricio Segura, né à Temuco, au Chili, et vivant à Montréal, sont extraits de son roman « Eucalyptus », publié tout récemment aux éditions du Boréal, dont il nous lira lui-même le début. Mauricio.
Bonsoir. À l'horizon, des flaques s'évaporent à mesure qu'il avance. Sa main tient le volant, mais c'est comme si c'était la main d'un autre. Depuis des kilomètres, Alberto roule sans s'apercevoir qu'une mouche tournoie comme ivre, fonçant sur les vitres dans un bourdonnement furieux. Il ne s'aperçoit pas non plus du jaune incendié des champs de blé qui défile à droite comme à gauche. Il revient à lui seulement quand le pick-up traverse le vieux pont métallique surplombant le Bio-Bio, où une flopée d'enfants rit à gorge déployée en se laissant emporter par le courant traître du fleuve. Sur la berge, les parents s'empiffrent de grillades et boivent du vin rouge dans des verres en plastique, jetant un œil distrait sur le jeu périlleux de leur progéniture. « Ça y est, j'y suis », pense-t-il. Il baisse la vitre pour humer l'odeur évanescente et vaguement clinique des eucalyptus qui bordent la panaméricaine et se dit que même ses connaissances de la flore du Sud, il les doit à son père. Dans le rétroviseur, il voit Marco qui, les yeux fermés, la bouche lipue, appuie le front contre l'atlas pour enfants qu'ils ont trouvé dans une librairie de Santiago. Plus tôt, son fils lui a demandé « Quand Abuelo m'a vu, qu'est-ce qu'il a dit ?»« Rien. Il t'a pris dans ses bras et il t'a bercé. Tu n'étais qu'un bébé. »« Mais papa, pourquoi t'as pas pris de photos d'Abuelo et moi ?»« Abuelo n'aime pas les photos. » Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'il s'est rendu compte du temps de verbe qu'il venait d'employer. Et pourquoi il n'aime pas les photos? Je ne sais pas, il est comme ça. Oh papa, je veux une photo d'Abuelo et moi ensemble, allez! Ce n'est plus possible maintenant, je t'ai déjà expliqué pourquoi. Son fils a tourné la tête vers la vitre, les bras croisés, une moue sur les lèvres, avant de s'endormir peu de temps après. À présent, distinguant au loin l'enseigne bleue et blanc d'une station-service, il décélère pour immobiliser le pick-up devant une pompe à essence. Quand il coupe le contact, il se demande s'il a commis une erreur en empruntant à son oncle ce véhicule si gourmand. Aurait-il dû écouter sa mère qui insistait pour qu'il prenne le train de l'après-midi? Probablement. Mais encore sous le choc du vide laissé par le départ d'Anne-Marie il y a quelques mois, il voulait éviter de se retrouver seul avec sa mère, de surcroît, dans un compartiment de train, et de subir ses inévitables questions sur sa vie de couple. Ainsi donc, il avait cru bon de voyager accompagné de son fils pour accuser le coup en toute quiétude. C'était curieux, parce que dès qu'il avait appris la nouvelle, il n'avait cessé d'attendre d'être bouleversé. Et au lieu d'être submergé par les émotions, il s'était mis à sonder ce que lui avait raconté au bout du fil sa tante Noémie. La seule parmi les frères et sœurs de son père, avec qui ce dernier était encore en bons termes. Mais quelle était donc cette maladie qui avait si rapidement détérioré l'état de santé de son père? Ne l'avait-il pas eu au téléphone il y a à peine 5 mois, conversation au cours de laquelle sa voix semblait pleine d'entrain? Il jette un coup d'œil vers le garage. Quand il klaxonne, des moineaux, sautillant autour d'une flaque d'eau huileuse, s'envolent dans tous les sens. Un homme en salopette grise sort du garage, s'essuyant les mains avec un torchon. Il porte sa casquette si bas, presque au niveau des sourcils, qu'Alberto ne peut lui voir la figure. Lorsque, debout devant la portière du conducteur, il lui demande ce que ce sera, Alberto répond le plein. L'homme prend le pistolet et, au moment où il se penche pour le mettre dans le réservoir, Alberto aperçoit son profil dans le rétroviseur extérieur. Il a le même visage anguleux et buriné, les mêmes yeux plissés, les mêmes lèvres rentrées. Mais ce n'est pas tant la ressemblance des traits que son expression de ruse perfide qui lui ramène d'un coup son père à l'esprit. Une botte délacée, posée sur une chaise de jardin, une cigarette entre l'index et le majeur, celui-ci apparaît devant ses yeux pour la énième fois, plus vrai que nature, tandis que derrière lui, entre deux coteaux, le jour décline, rougeâtre et fataliste. Ses yeux fixes, faussement endormis, ou à la commissure, s'allument une étincelle, expriment une résignation ironique, une contrariété qui laisse se craindre un débordement d'un instant à l'autre. Alors, bien qu'il sache que cette scène est imaginée, il entend distinctement d'une voix douce que son père n'a jamais eue, comme si finalement il baissait la garde. On n'a pas su se comprendre, Alberto. La main de l'homme est tendue. Il replie 2 fois ses doigts effilés et tachés d'huile. Alberto fouille dans ses poches et en sort 2 billets de 10 000 pesos chiliens. L'homme lui tourne le dos pour se perdre dans la pénombre du garage. Au bout d'un moment, devinant qu'il ne ressortira vraisemblablement pas avec la monnaie, Alberto démarre le moteur et s'avance vers la voie menant à la Panaméricaine. Merci.
Le poète Jean-Marc Desjean est né à Montréal, dans le quartier Saint-Henri. Après plusieurs années longueloises, il est de nouveau montréalais. « Il faut tout dire, écrit-il, ne rien cacher. Il faut cracher le morceau, ne rien garder entre les dents, ne rien avaler encore et encore. Il faut donner tout, écrire comme s'il y avait la colère perpétuelle, le désir inassouvi de faire mal, la volonté profondément inscrite de frapper, d'envoyer knock-out le monde qui nous entoure. Demeurant seul, debout au milieu du ring, encourageant l'univers à se relever, afin de continuer à le cogner, jusqu'à bout de force, jusqu'à bout d'existence. » Mon travail est celui du témoin angoissé de ce qui se manifeste ouvertement ou en secret sur le territoire que j'habite, le Québec, ou sur l'espace que j'occupe, l'Amérique. Il y a ici, lieu national, lieu continental, une guerre civile dont on ne parle jamais. De ces affrontements, j'ai fait mon corps d'écrivain. En ce sens, je suis un poète américain, me sentant responsable de mon continent, tout en étant brûlé par lui. Ma langue, c'est mon tonnerre tous les jours. Création, destruction, oui, oui, en même temps. Et basta pour mes contradictions. Jean-Marc Desjean lira ce soir un extrait de Portrait de famille, publié ce printemps aux éditions des Écrits des Forges. Jean-Marc.
J'ai l'être poussé, sans doute la chose passée, la planète aussi tombée. Je suis existé seulement, ces bêtes, ces tout vite dames aphasiques. Je suis par la tête coupée, cassée, la tête ivre par les astres, les sphères, les mécaniques théologiques, par les voix qui tournent et qui ne sortent plus de ma petite boîte osseuse. Je suis roulé au bord des rues, abattu après l'école dans mon tissu intime qui fait la belle moiteur des sexes. J'ai alors la pauvre personne qui se traîne, qui imite le petit rampant, qu'on dirait une rivière à déchets. Moi aussi, je me jette. Nous aussi, on ne s'envole plus. J'ai les hommes de prière, les croyants, les pénitents, qui sont encore les tireurs fous. On voit les trous que ça fait. Ça donne la paix du monde, ma chair, ta chair. On avale ça et j'ai le corps à la haine dans tous les cas de simple vide terrestre. J'imagine les bontés que je ne peux plus. Ma peau, la peau, c'est la peur qui m'habille petit. C'est nous, le spectacle, la petite horreur des images, l'applaudissement des choses. On se brise les matières premières. On invite la personne qui est la vie blanche sans lieu. Je suis à ses pieds ou je suis complètement dans ses bras, même si ça n'a jamais existé. Parfois, on veut monter par le chemin court et arriver au léger tremblement des cuisses, c'est tout de suite l'admirable paysage. Je suis grand lit d'amour avec conifères féminins, sans déchirure. D'ailleurs, je suis interdit de déchirure. C'est condamné ce conifère qui est le seul lieu où je suis ensemble. Moi, les objets que je me fais, moi, la langue très close, peu importe celle que j'entends ou celle que j'apprends, je me la détruis dans le coffre qui est sur mes épaules. Je dis feu et c'est lost, si calciné. Moi, c'est le sac jeté sur une épaule qui contient le solitaire en toute situation de rencontre. Moi, c'est le garçonnet, pas encore la fillette, pas tout à fait, pas sourire sur rampe d'escalier, pas plaisir et déjà vieilles érections, pas quelqu'un ou pas quelque chose au bout du tunnel, pas de tunnel. Plusieurs chutes mortelles et je me donne au moindre étourdissement, pas pleurer dans le désir plaqué lumière. On dit belle cassure, je cherche belle brûlure. Moi, les grands cœurs noirs, moi, les âmes malades, le souillé de la vraie chose, moi, la mécanique paradoxale, le corps tombé en bas de sa chaise dans sa musculature douloureuse. Moi, pas chair de Dieu fait papa propre, maman et enfant des merveilles. Moi, pas le conte de fées, moi, le pauvre qui est par millions et qui m'habite tout. Je suis le peu d'être qui reste. Il y a les cadavres sur les autres, on fait des tas, des petites montagnes d'abandon et on s'enivre, on voit des crânes qui parlent par eux-mêmes, rouler, renverser, monter, descendre, ouvertes les grandes bouches du sens. On voit les crânes, mais on voit pas le reste. Ma chair, ta chair, on goûte à ça, c'est mourir plus vite et on entre aux effondrements. J'ai le corps à donner, le corps à famille, le corps à sœurette, à frérot, à beaucoup trembler, à beaucoup finir. Je ne fais pas lieu, je fais le rien qui est bien joli avec neige les soleils d'hiver. Je fais le monde en moins pour l'instant. Je suis tête parlante, mais je ne m'en souviens pas. Ça, c'est tout additionné dans le dialecte ou plus loin, sans clarté, donner, donner seulement, tout lancé, hors de portée. Et je vais avec les anges exterminés. Je suis arrivé comme un couteau et j'ai un jour crevé une maman valise. Je suis né avec combien de langues alitées, avec combien de langues nations errantes sur grandes scènes et beaux décors. C'est que j'ai la maladie dit de ça avec coups, crampes et visages tuméfiés par les non-événements de la terre. Je suis tout depuis que mes langues étranges, celles qu'on m'extirpe à gauche et à droite, montent jusqu'en dans mon crâne pluriel, vrillent dans mes pensées crevées. Quand ça tremble et trouble, c'est moi, vulve sans comprendre, et je fais l'amateur de destruction pour l'homme en personne qui embrasse à côté, qui embrasse le paradis du sang, qui se penche et se coupe en deux comme deux gamins chevaux destinés aux abattoirs, deux vêtements tachés ou déchirés, deux beautés de ma vie qui hurle dans ma poitrine percée, deux soldats partis pour la gloire et la médaille, deux plaisirs de main cuite, toujours deux petits cœurs après 9 heures qui ne vivront pas longtemps leur amour. Ils sont déjà des gouffres. Ça nourrit mal le trou qu'ils sont ou le trou qu'ils font avec leur bouche. Merci.
Notre dernière invitée, l'écrivaine Silvia Eugenia Castillero, est née à Mexico et elle habite aujourd'hui Guadalajara. Pour cette présentation, je n'ai malheureusement pu retenir que deux passages de poétique ou tout peut-être l'autre entier. Extraire le cœur des choses, écrit Silvia Eugenia Castillero. C'est peut-être l'élan premier auquel obéit pour moi le fait d'écrire de la poésie. Pénétrer le mystère indissoluble de l'existant et élaborer une mystique des objets, à travers laquelle ceux-ci, y compris les souvenirs, les émotions, les rêves, sont une nouvelle fois visités et nommés. Puis plus loin, ainsi mon idéal poétique consiste-t-il à faire de la métaphore une métamorphose et à convoquer le pouvoir de la transformation des mots pour que le nommé devienne objet capable de signifier et appartienne au domaine de l'analogie, celui de l'imagination, où tout peut être l'autre, tout entier. Silvia Eugenia Castillero lira ce soir quelques poèmes en prose, extraits de Zolilocque, publié à Paris en 2007, chez Indigo Éditions, et quelques poèmes du livre Héloïse, qui paraîtra sous peu en espagnol à Mexico, chez Aldus, et dans une édition bilingue à Montréal, aux éditions du Norrois. Je lirai la version française des poèmes que Silvia nous lira en espagnol. Silvia.
Bonsoir. El buitre. Está enjuto y comprimido, calvo de tanto encierro. Todavía conserva su capa negra, bordeada de armiño, y su mirar penetrante. Pero la vejez se advierte en su piel, plegada en sí misma, sin poder ceñir el gran volumen de antes. En su celda hay unos cuantos troncos que simulan un banco. Ahí trepa y permanece con su espinazo cada vez más doblado. Aún percibe las corrientes de aire, despliega sus alas y vuela como lo hacía en tiempo de hazañas, cuando se abandonaba a las columnas de viento cálido agitadas entre las rocas hasta ascender muy alto en espiral. Pronto estrella su cuerpo desplumado contra los barrotes y el ímpetu cesa. Los guardias acuden a causa del ruido. Él retrocede, se finge minúsculo y esconde su corvo y filoso pico. Se ha vuelto temeroso, lento y opaco en sus furores. Desde su captura le suspendieron la carne para volverlo prudente. Su palidez de vegetariano le da aspecto débil. Parece un cuervo melancólico perchado de un árbol seco.
Le vautour, il est tout desséché, recroquevillé, chauve, après tant de réclusion. Il a gardé sa cape noire brodée d'hermine et son regard pénétrant, mais la vieillesse se devine dans sa peau, rebroussée sur elle-même, sans parvenir à ceindre son grand volume antérieur. Dans sa cellule, il y a quelques troncs qui voudraient ressembler à un banc. C'est là qu'il grimpe et demeure, l'échine un peu plus voûtée chaque jour. Il perçoit encore les mouvements de l'air, déploie ses ailes et vole comme il faisait au temps de ses exploits, quand il s'abandonnait aux colonnes de vent chaud, frémissantes, au milieu des rocs, pour s'élever très haut en spirale. Mais aussitôt, son corps déplumé vient s'écraser contre les barreaux et l'élan se casse net. Le bruit fait accourir les gardiens, il recule, feint d'être minuscule et cache la courbure acérée de son bec. Il est devenu craintif, lent et opaque dans ses fureurs. Depuis sa capture, on l'a privé de viande pour le rendre prudent, et sa pâleur de végétarien lui donne une allure chétive. On dirait un corbeau mélancolique perché sur un arbre sec.
Minotauro, cuando los dioses perdieron el control de sí, fui un ser concebido a deshora entre humanos. con la eternidad libre en el cuerpo. Los creadores me estimaron su obra maestra, preservaron su prodigio en el jardín subterráneo, con flores blancas y esclavos que refrescaban mi frente. Lánguido, profundizaba en sueños. Después del holocausto, al fugarse, los dioses olvidaron dictar mi destino. Pude salir por rendijas que el polvo fue abriendo. Ahora recorro la locura de ser libre entre el humo de una anterior agonía. Viejo toro sin jaula, invento mi pradera entre las ruinas. Del cielo caen puñados de pájaros mudos. Aglomeración de piedras, todo permanece, descolorida estampa, atravesado por un glacial arpón. Aún mi mirar fosforece y raya las tinieblas. Continúo siendo luz palpable sobre la desnudez del paraíso.
Minotaure. Lorsque les dieux perdirent le contrôle d'eux-mêmes, je fus un être conçu à contre-temps chez les hommes, avec l'éternité en liberté dans le corps. Les créateurs virent en moi leur chef-d'œuvre. Ils mirent à l'abri leurs prodiges dans un jardin souterrain à fleurs blanches, avec des esclaves qui rafraîchissaient mon front. Alangui, j'approfondissais mes rêveries. Après l'Holocauste, les dieux en fuite oublièrent de dicter mon destin. La poussière ouvrait des fissures par lesquelles je pus sortir. Aujourd'hui, je poursuis ma route à travers la folie d'être libre dans la fumée d'une agonie antérieure. Vieux taureau sans cage, j'invente ma prairie parmi les ruines. Du ciel tombent des poignées d'oiseaux muets. Cohue de pierre, tout demeure, image jaunie, traversée par un harpon glacé. Mon regard reste phosphorescent et zèbre les ténèbres. Je suis encore lumière palpable sur la nudité du paradis. Ces deux premiers textes étaient traduits par Claude Couffon.
Río Sena, añil. Reconozco esta hora. Llegaba en amarillo a los troncos veteados. Luego se inclinaba como agua en un hilado de gotas. A la piedra del puente un sol le rasguñaba esta hora. La volvía árbol, mano añosa. En sus paredes se formaban quejas, congojas, gorjeos, goznes, ninguneos de los pájaros, gritos y gárgaras, cáscaras de plumaje, casualidades del tiempo vuelto agua. Reconozco esta hora como un relieve detrás de la neblina. La luz precisa me cerca el corazón. La hora pasa y oxida el agua, empuja los reflejos a la orilla, agua afilada vuelta a fragmentos, que desde el borde buscan fondo y allí permanecen con su gesto negro, de piedra que se abre, luz amurallada sobre el río.
La Seine, Indigo. Je reconnais cette heure. Jaune, elle arrivait sur les troncs veinés, puis se penchait comme une eau, en un filet de gouttes. Sur la pierre du pont, un soleil venait griffer cette heure. Il en faisait un arbre, une main âgée. Sur ses parois s'agglutinaient des plaintes, des angoisses, des roucoulements, des articulations, des riens d'oiseaux, des cris, des gargarismes, des restes de plumage, hasard du temps devenu eau. Je reconnais cette heure comme un relief derrière la brume. Sa lumière exacte cerne mon cœur. L'heure passe et rouille l'eau, repousse les reflets vers la rive, eau coupante devenue fragment, qui depuis la rive cherche le fond. Ils restent là avec leur air noir, leurs yeux absents, de pierre qui se fend. Lumière murée sur le fleuve.
Tajo. Tiene que haber sido el mar con su furia arrastró de tajo las formas, la lengua, la plegaria matinal. Tiene que haber sido esa descomunal fuente de cristal en pedazos, labriego insoluto, huérfano océano, desbordó la intimidad. Rabioso horadó los herrajes de la noche, furia venida del espesor de arenas y rocas. Con su perfil de resaca nos dejó sin costa, sin muelles, en la abstracta posición del alba.
D'un coup, seule la mer et sa fureur ont pu, d'un coup, emporter les formes, la langue, la prière matinale, seule cette extraordinaire source de cristal en morceaux. Laboureur irrésolu, océan orphelin, elle a débordé l'intimité. Furieuse, elle a brisé les fers de la nuit. Fureur venue de l'épaisseur des sables et de roches, avec son profil de ressac, elle nous a laissés sans côte, sans quai, dans l'abstraite posture de l'aube. Traduction, François-Michel Durasso. Merci.
Merci. Merci David Gaudreau. La pièce avait pour titre Danza. Merci à Joanne Germain encore une fois, à Lynn Gem qui était à la technique, c'est pas de sa faute s'il y a eu ce petit problème, à Éric Champagne qui nous a accueillis, à tous les lecteurs et lectrices et à vous tous. Bonne soirée. Merci.